L'Avenir de l'Amérique.
Timothée Donangmaï, ici à Washington, en lieu et place de Jacques Aristide. Heureux de vous retrouver dans Washington Forum, consacré ce soir au Nigeria, où Boko Haram semble toujours insaisissable. La secte islamiste nigériane poursuit sa campagne de terreur. Attentats à la voiture piégée, attaques contre des cibles militaires et civiles, meurtres ou enlèvements d'élèves dans des collèges, rien ne semble en mesure d'arrêter la sanglante marche de Boko Haram. Pendant ce temps, les leaders nigérians s'accusent mutuellement d'inaction ou d'incompétence.
Washington Forum.
Bienvenue et merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique. Les islamistes de Boko Haram ont encore fait parler d'eux cette semaine. Le président nigérian Goodluck Jonathan les a mis en cause dans l'attentat et en fait au moins 75 morts près d'Abuja, la capitale fédérale. Le point avec Nicolas Pinault.
Des carcasses de bus calcinées, du sang et des larmes, le Nigeria a une nouvelle fois basculé dans l'horreur. Cette fois, c'est une gare routière en banlieue d'Abuja qui a été visée. Au moins 75 personnes ont perdu la vie dans cette attaque qui porte la marque de Boko Haram, selon les autorités. Goodluck Jonathan, le président, s'est rendu sur les lieux pour présenter ses condoléances.
Les attaques de Boko Haram sont une vilaine page de l'histoire de notre développement. Le gouvernement fait tout pour que notre pays aille de l'avant.
Boko Haram aurait déjà fait plus de 1500 morts depuis le début de l'année, selon Amnesty International. Des écoles, des églises ou des marchés sont pris pour cible. L'offensive militaire lancée en 2013 par l'armée dans le nord-ouest n'a rien changé, ni l'état d'urgence décrété dans les états de Borno, Yobe et Adamawa. La nébuleuse Boko Haram semble insaisissable, à l'image de son chef, Aboubakar Shekau, déclaré mort à plusieurs reprises, mais qui ne cesse de réapparaître dans des vidéos.
Nous soutenons ce qui s'est passé dans les écoles de Momudo, d'Amatougou et tout ce que nous faisons aux écoles occidentales. Nous avons dit que nous brûlerions les écoles occidentales. Nous avons dit que nous brûlerions les écoles occidentales parce qu'elles n'enseignent pas les préceptes de Dieu.
Que veut vraiment Boko Haram dans un pays où la loi islamique est déjà appliquée dans 12 États? Si l'éducation occidentale lui semble mauvaise, le groupe djihadiste affirme vouloir aussi lutter contre la corruption. Alors que 70% de la population rurale vit en dessous du seuil de pauvreté au Nigeria. Une plateforme progressive qui attire dans un pays où le miracle pétrolier est un mirage pour la majorité, y compris à Maïdougouri, considéré comme le fief des islamistes. Boko Haram semble disposer de soutien dans l'armée et dans la haute administration, ce qui rend son démantèlement par la force très difficile. Un dialogue politique est-il vraiment envisageable avec ceux qui égorgent des enfants ? La réponse à cette question sera l'enjeu majeur de la prochaine élection présidentielle de 2015. Nicolas Pinault, Washington, La Voix de l'Amérique.
Nous allons tenter de démêler les chevaux Boko Haram avec nos invités. Avec moi en studio, Alexis Arieff, spécialiste des affaires africaines au Congressional Research Service ici à Washington. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons aussi notre confrère Adamu Aboubakar Gwarzo en ligne de Kano au Nigeria. Bonsoir Adamu.
Bonsoir, monsieur le
président. Et nous avons allié de Paris Benjamin Auger, chercheur associé à l'Institut français de relations internationales, l'IFRI. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, Adamu, nous allons commencer par vous. Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'attentat de la banlieue d'Abuja?
Oui, mais vous saviez, après l'attentat d'Abuja qui a fait plus de 75 morts et plus de 200 blessés, il y a aussi l'enlèvement de Maïdougouri de 200 étudiants où l'armée a dit qu'ils ont pu retrouver les enfants. Mais la directrice de l'école, ce matin, elle a démenti que les enfants ne sont pas de retour.
Le président Jonathan avait accusé Boko Haram de l'attentat d'Abuja, mais il n'y a pas eu de revendication. Est-ce qu'il y a eu du nouveau de ce côté?
Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de revendication. Donc nous espérons toujours les revendications par nos mails, comme d'habitude de Boko Haram le faire.
Vous l'avez mentionné, cet enlèvement de jeunes filles d'un collège de Chibok dans le nord-est du pays. Et l'armée a annoncé la libération de ces filles, mais vous l'avez dit, aux dernières nouvelles, ce n'est pas tout à fait cela.
Oui, mais la directrice de l'école, elle a démenti que les étudiantes ne sont pas revenues à l'école. Aussi, les parents aussi ont démenti. Donc, ils disent que peut-être l'armée n'est pas claire. Donc, ils demandent, le gouverneur même de l'État de Maiduguri vient de demander l'armée de ne pas politiser l'enlèvement des étudiantes. Donc, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui.
On a aussi fait état du massacre d'une vingtaine d'habitants du village de Wala dans l'État de Borno, y compris le chef de village. Quelles sont les réactions dans le pays à ces événements?
Oui, mais vous voyez, déjà, le Nigeria, tout le monde est fatigué. Si je dis tout le monde est fatigué, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le Nigérien, il n'a plus de garantie sur la sécurité du pays. Déjà, si vous suivez l'actualité de Boko Haram, vous voyez déjà, c'est l'armée qui maîtrise l'information. C'est eux qui monopolisent l'information de Maiduguri. Donc, précisément, tout le monde ne croit plus à l'armée. Maintenant, les gens ne croient plus à l'armée au Nigeria. Parce que les gens se disent qu'aujourd'hui, là, comme l'armée avait souligné qu'ils avaient tué Imam Shekau, Apaka Shekau, le chef du groupe, et après, il est sorti, encore démenti qu'il est vivant. Donc, ça a amené des doutes entre la population du Nigeria et l'armée nigériane.
Voilà, Benjamin Auger, l'attaque dans la banlieue d'Abuja et l'enlèvement des collégiennes traduisent-ils une nouvelle tactique de Boko Haram?
Oui, mais vous
venez. Non, pas spécialement.
Allô? Oui, Benjamin Auger?
Non, pas spécialement, parce qu'ils ont déjà touché Abuja, qui était la plus grande crainte des autorités nigérianes. Le problème, c'est que de plus en plus, le mouvement va peut-être essayer d'aller au sud, de plus en plus au sud. Et la grande crainte des autorités sécuritaires du pays est qu'il puisse toucher notamment la capitale économique, qui est Lagos, qui actuellement n'a pas encore été touchée. Et c'est là vraiment le cœur économique du pays. Le cœur économique du pays n'est pas à Abuja, c'est un symbole politique. Mais les deux centres et les deux poumons économiques du pays sont Lagos et la région du Delta, où sont situées les réserves pétrolières et gazières du Nigeria.
Alexis Arieff, Boko Haram s'est donné pour projet d'établir un État islamique dans le nord du Nigeria. Or, il se trouve que 12 États du nord Nigeria, dont Borno, appliquent déjà la charia, mais apparemment, le groupe n'est pas satisfait.
Oui, bon, c'est un groupe qui peut-être ne sera jamais satisfait, étant donné la structure de l'État du Nigeria, qui est quand même un État structuré de façon fédérale, d'une façon héritée un peu du régime colonial aussi.
Adamou ?
Oui, mais vous voyez, c'est pas facile que ce que Boko Haram voudrait, ce que Boko Haram souhaite pour le Nigeria, parce que si vous voyez, le Nigérien est presque 50-50, 50% musulmans, 50% chrétiens. Donc, le pays ne pouvait pas être islamisé. Donc, eux, si vous suivez les réactions de l'imam Shekau, lui, il demande d'islamiser le Nigeria entier, alors que c'est très impossible. Même le nord du Nigeria ne pouvait pas être islamisé parce qu'on a plus de 20% de la population chrétienne. Donc, c'est pas facile. Donc, le besoin de Boko Haram, ça ne serait jamais, ça ne peut jamais avoir lieu au Nigeria parce que le Nigeria n'est pas un pays musulman, donc il faut que aussi ce qu'on voit sa réaction, ça ne peut jamais avoir lieu dans un pays où il y a différentes sortes de religions, donc c'est ça.
Benjamin Auger, le gouvernement nigérian a réussi à chasser Boko Haram des grands centres urbains comme Maiduguri, mais cela n'empêche pas le groupe de frapper à volonté. Qu'est-ce qui manque à la stratégie gouvernementale?
Oui, mais vous voyez.
Le problème, c'est d'arriver à trouver une stratégie politique pour régler le problème. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui a été privilégié, c'est l'armée, qui est assez violente au Nigeria et qui entraîne encore plus de violence du fait du mécontentement des gens qui sont touchés par les frappes militaires, sachant que parfois, ils ne sont absolument pas liés au mouvement. Donc, on grossit un mécontentement, on étend la tâche, entre guillemets, des endroits où Boko Haram intervient, et on ne règle pas une question qui est avant tout politique avant d'être militaire et sécuritaire. Donc évidemment, quand les militaires arrivent à gérer la sécurité dans les grandes villes, Boko Haram ou les groupes qui lui sont proches interviennent dans les villages et dans les zones non contrôlées par les Joint Task Force, qui sont les forces spéciales de l'armée qui sont en train de les chasser des centres-villes.
Adamu Guarzo.
Oui, mais si vous regardez Boko Haram aujourd'hui, c'est-à-dire que le Nigeria a besoin de coopérer avec le Cameroun, parce que aujourd'hui, mais si vous regardez maintenant Boko Haram, ils sont vers la frontière camerounaise et nigérienne, donc le Nigeria est obligé de coopérer avec le Cameroun si vraiment le Nigeria voudrait combattre l'insurgence de Boko Haram. Et puis le Cameroun aussi doit jouer la diplomatie sincère avec le Nigeria, parce que si vous vous rappelez, une radio camerounaise avait souligné que il y a des armes qui sont été arrêtées par qui sont en train de fusionner. Les armes appartiennent aux militaires de Boko Haram. Mais après, les chefs du canton du même village ont démenti qu'il n'y a aucune opération qui a eu lieu pareil au Cameroun. Donc vous voyez, sans l'accord du Cameroun, les Nigériens ne pouvaient jamais combattre l'insurgence de Boko Haram. Parce que le Cameroun est très important, parce que c'est la frontière entre Maiduguri et Cameroun. Donc c'est la frontière que Boko Haram a pu maîtriser. Et l'armée nigérienne ne comprend pas bien cette zone. Donc il faut qu'il y ait une armée d'alliance entre le Nigeria et le Cameroun maintenant pour protéger les frontières. De là maintenant, nous pouvons avoir un résultat excellent.
Alexis Arieff, le Cameroun est menacé, le Niger aussi, qui est un pays voisin du Nigeria.
Oui, effectivement. Effectivement, le Boko Haram semble avoir établi des bases arrières dans les deux pays frontaliers avec le nord-est du Cameroun, du Nigeria, pardon. Et effectivement, la zone frontalière entre l'extrême nord du Cameroun et le nord-est du Nigeria semble être une région clé, comme a dit Adamu, pour ce groupe. Par contre, les deux pays font face peut-être à des menaces peu similaires en termes de la majorité de leur population. Ce sont des États assez différents. Et comme a souligné Adamu, les trois pays ont beaucoup de difficultés à coopérer ensemble, ce qui est un challenge pour les efforts de faire face à Boko Haram.
Benjamin Auger.
Oui, la grosse question et le gros problème... C'est une question régionale, c'est-à-dire que ce soit le Niger comme le Cameroun ou le Tchad, il y a un problème de communication avec le Nigeria. Les Nigériens ne connaissent pas très très bien Boko Haram et ne considèrent d'ailleurs pas Boko Haram comme la principale menace. Ils considèrent la principale menace comme venant de la Libye et du Mali, mais pas venant du Nigeria et de Boko Haram. Ils considèrent jusqu'à maintenant que Boko Haram utilise le Niger comme une base arrière et qu'ils n'ont jamais vraiment intervenu, ils ne sont vraiment jamais intervenus, Boko Haram, comme menace sécuritaire à l'intérieur du Niger. Donc il y a un manque de communication, il y a un manque de compréhension du sujet Boko Haram entre les différents pays de la région, mais il y a quand même une peur que la tâche des activités et de l'activisme de Boko Haram grandisse et touche directement les pays frontaliers, en particulier le Niger.
Adamu Guarzo, le gouverneur de l'État de Borno, a déclaré en mars dernier que les militants de Boko Haram sont mieux armés et mieux motivés que les troupes gouvernementales et qu'il est impossible de venir à bout d'eux dans les conditions actuelles. Et quelle est la validité de cette opinion, Adamu?
Oui, mais si vous regardez le gouverneur de l'État de Borno, qu'il avait souligné, M. Kassim Sekima, lui, il dit qu'il est le gouverneur de l'État de Maiduguri et puis il a vu des armes sophistiquées, les armes sophistiquées que les militants de Boko Haram utilisent. Même l'armée nigériane n'a pas cette arme. Donc, si vous vous rappelez aussi, après son discours qu'il a souligné, l'État fédéral le critiquait, si vous vous rappelez aussi, il y a un militaire qui s'est confié à la Voix de l'Amérique, c'est Bissaoussa, qui soulignait le problème de l'armée, que l'armée est incapable, parce que, selon lui, Boko Haram a plus de 4 nationalités. Il y a des Libyens, des Nigériens, et des Tchadiens bien armés, ils sont bien entraînés, plus que l'armée nigériane, qu'ils ne peuvent pas les combattre. C'est très difficile parce qu'ils ont des armes sophistiquées plus que l'armée nigériane. Donc, si c'est le cas, c'est un peu difficile. Il faut que le gouvernement fédéral du Nigeria revoie la stratégie du guerre parce que tu ne peux pas combattre ton ennemi qui a plus d'armes sophistiquées que toi. Donc, il y a tellement de problèmes. Monsieur Chetima, le gouverneur de Borno, il a raison d'avoir souligné la réalité des choses que le gouvernement fédéral n'a pas voulu. Ils l'ont critiqué en disant s'il le laisse avec l'insurgence, il fera pas 24 heures, il va quitter Maiduguri. Oui, mais il a raison, il a vu, lui, il vit là-bas, il a vu des réactions. Et puis, il a vu si Boko Haram dit qu'ils vont attaquer, ils attaquent. Donc, lui, vraiment, il est découragé. Donc, il est sorti pour critiquer l'action que le gouvernement fédéral n'était pas content. Donc, mais moi, si mon point de vue, il a vraiment raison. Parce qu'aujourd'hui, Boko Haram nous fait tout peur dans le pays. Parce qu'ils disent on va attaquer cet endroit. Le lendemain, ils attaquent. Donc, ça fait peur. Donc, il faut que l'État change le système de guerre. Parce que vraiment, ça ne va pas. Le pays est en deuil. Donc, il faut que l'État fédéral regarde cette situation et puis amener une solution positive à la population nigériane.
Dans un instant, les points de vue de nos Facebookers Washington Forum revient après cette pause.
La Voix de l'Amérique, c'est votre information, votre partenaire interactif. L'excellence journalistique, des professionnels reconnus, des nouvelles du monde entier et bien sûr une fenêtre sur l'expérience américaine à la radio, la télévision, sur Internet et téléphone portable.
La VOA, une information vérifiée, les temps forts de l'actualité en temps réel sur le terrain grâce à nos reporters déployés sur les 5 continents et notre rédaction centrale à Washington qui vous propose des programmes en plus de 40 langues différentes.
La VOA, c'est aussi l'actualité américaine. Avec nous, découvrez les États-Unis. Le partage de l'information, les médias sociaux, des blogs, des vidéos de nos citoyens journalistes.
La Voix de l'Amérique, c'est une information fiable, objective, des opinions libres de toute censure, des échanges d'idées à l'échelle mondiale. Prenez part au débat.
La VOA, toujours au cœur de l'actualité.
Toujours avec vous.
Restez informés.
Timothée Donangmaï, de retour avec vous dans Washington Forum. Boko Haram toujours insaisissable. Et pour tenter de répondre à ces questions, nous avons nos spécialistes, Alexis Ariel du Congressional Research Service ici à Washington, Adamu Abubakar Gwarzo en ligne de Kano au Nigeria, et Benjamin Auger, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales. Voici quelques-uns de vos commentaires sur Facebook. Nous avons les attaques de Boko Haram ont contraint des milliers de civils à se réfugier dans les pays voisins et eux-mêmes n'hésitent pas à faire des incursions, ainsi que l'illustre les prises d'otages au Cameroun à côté. Voilà, donc nous allons passer à ces instructions Facebook. Alors, les pays voisins, je pense, sont impuissants par le simple fait que la réalité n'est pas ce qu'ils pensent. Nous sommes plus concentrés sur le fait religieux, c'est ce que dit Marc Kwawa Ibanda de Kinshasa, et comme si ceux qui meurent ne sont que des chrétiens et nous négligeons le côté pauvreté tant spirituelle que matérielle qui pousse au dégoût et au désespoir. Voilà, et c'est notre ami de Kinshasa. Et donc Boko Haram, on a parlé d'une certaine coopération entre les pays voisins du Nigeria et le Cameroun, le Niger, le Tchad, mais en même temps, Benjamin Auger, ces pays semblent quelque part réticents à engager une réelle coopération, redoutant peut-être les représailles des militants nigériens, Benjamin Auger.
Oui, je pense que c'est assez normal de leur part d'être assez réticents en se disant que s'ils commencent à agir militairement, ils vont avoir les attentats sur leur sol. Mais comme je disais au départ dans la première partie de l'émission, le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas bien la menace Boko Haram parce qu'il y a un manque de communication entre des élites en particulier basées à Abuja et les groupes sécuritaires qui sont à la frontière entre le Niger et Nigeria et Niamey. Comme je le disais aussi avant, les élites à Niamey ne considèrent toujours pas même avec tout ce qui se passe au Nigeria, que Boko Haram est leur principale menace sécuritaire. Il faut dire que dans la région, des menaces sécuritaires, il n'en manque pas.
Alexis Ariev.
Je suis d'accord que les gouvernements dans la région font face à plusieurs sortes de challenges et ne considèrent pas forcément le Boko Haram comme étant leur priorité numéro un. Surtout, je pense que les zones où opère Boko Haram, que ce soit au Niger, au Cameroun, ce sont des zones loin des capitales, loin des régimes en place et souvent, dans le cas du Cameroun surtout, c'est une région marginalisée historiquement par le pouvoir au Cameroun. Donc c'est très difficile pour ces gouvernements et pour leurs forces de sécurité de prendre conscience de ce qui se passe exactement dans ces régions vis-à-vis de l'infiltration de Boko Haram.
Adam Ogwazo.
Nos trois pays voisins, le Tchad, le Cameroun, le Niger, s'il n'y a pas une coopération sincère entre eux et le gouvernement du Nigeria, Boko Haram, avec le temps, il peut aller à Niamey, il peut aller à Djamena, il peut aller à Douala, parce que c'est avant au Nigeria, ils étaient un peu partout, ils étaient à Kano, ils étaient à Abuja, donc ils étaient jusqu'à Lokoja, la frontière du sud et du nord. Donc il faut une solution permanente pour empêcher Boko Haram à grandir, parce que maintenant ils se sont localisés dans un endroit. Donc il faut qu'il y ait une coopération sincère entre ces pays et le Nigeria pour combattre l'insurgence de Boko Haram. Parce que sinon, l'insurgence peut grandir avec le temps.
Adamu, au plan intérieur nigérian, il y a une sorte de ping-pong politique entre les élites du Nord et du Sud. Les élites du Sud accusent celles du Nord de soutenir Boko Haram pour des gains politiques et celles du Nord disent que le gouvernement du président Jonathan utilise la menace de Boko Haram pour asseoir son pouvoir. Alors, qui a raison dans ce débat?
Oui, M. Timothée, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, si tu demandes un lobbyiste, il te dira que Boko Haram est créé par le gouvernement de Jonathan pour détruire le Nord. Si tu demandes un sudiste, il te dit Boko Haram est créé par des lobbyistes pour empêcher à Jonathan de diriger le pays dans le calme ou sa continuité de 2015. Donc, c'est très, 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 très difficile. Et puis, je ne suis pas d'accord aussi qu'on dit que Boko Haram est sponsorisé par les gens du Nord, parce que la majorité des victimes sont des gens du Nord. La majorité des victimes même sont des musulmans à Maiduguri. La majorité des morts, ce sont des gens des autochtones de Maiduguri qui meurent pour rien. Donc, je ne suis pas d'accord si les gens du Nord sponsorisent Boko Haram. Mais moi aussi, je ne suis pas d'accord si c'est le président Jonathan qui sponsorise Boko Haram. Boko Haram était là avant l'arrivée du président Jonathan. Boko Haram vivait, elle était là, si vous vous rappelez, le régime de Oumou, Moussa Yar'Adua, Boko Haram existait. Donc, ça existait depuis même le temps de Obasanjo. Donc, c'est maintenant, avec le temps, ils sont en train d'agrandir, ils sont en train de prendre leur philosophie radicale. Donc, vous voyez, on peut pas, c'est des accusations, Comme il n'y a pas une solution permanente, donc il y aura toujours des accusations.
Alors, le gouvernement américain a déclaré Boko Haram organisation terroriste l'année dernière, ce qui avait d'ailleurs causé quelques soucis aux autorités nigérianes. Alexis Ariev, tout d'abord, que signifie cette classification? Quelles sont les obligations du gouvernement américain par rapport à cette classification?
Donc, effectivement, après une longue période de débat au sein du gouvernement américain, le département d'État finalement a désigné le groupe Boko Haram comme étant ce qu'on appelle ici un groupe terroriste étranger. C'est une désignation qui a surtout des implications pour des efforts de mener, si jamais il y en avait, des procédures judiciaires aux États-Unis.
Comme le gel des comptes bancaires.
Exactement. Ouais. C'est une désignation qui a surtout à voir avec, quand on parle de liens formels, avec justement les sanctions financières et des efforts de faire une surveillance des systèmes financiers qui peuvent contribuer à ce groupe. Par contre, aussi, bien sûr, ça montre une croissance d'inquiétude au sein du gouvernement américain quand il s'agit de ce groupe qui après tout, focalisé sur le Nigeria et surtout présente, à ce qu'on sache aujourd'hui, une menace régionale et non pas forcément une menace apparemment directe direct vis-à-vis des États-Unis. Bien sûr, après la désignation, il va y avoir un peu plus d'attention au sein du gouvernement à ce groupe. Je dirais aussi qu'il y a déjà une coopération militaire et sécuritaire bilatérale entre les États-Unis et le Cameroun d'un côté, entre les États-Unis et le Niger d'un autre côté. Cette coopération est grandissante. En même temps, elle n'est pas énorme du point de vue global, ni même du point de vue continental quand on regarde l'Afrique. Mais quand même que cette coopération, à mon avis, va continuer et va même continuer à croître.
Adamu, le gouvernement nigérien a assez froidement accueilli la désignation de Boko Haram comme groupe terroriste. Quelles sont les inquiétudes de ce côté?
Oui, mais vous voyez, les Nigériens ne sont pas d'accord avec ça, parce que selon les Nigériens, si vous regardez le point de vue des Nigériens, ils disent que le gouvernement ne devrait pas dire non, Boko Haram ne sont pas un groupe de terroristes, parce qu'aujourd'hui, Boko Haram menace tout le pays. Maintenant, il y a 20 ans aussi, vous vous rappelez, les Américains ont dit que Boko Haram, ils sont des groupes terroristes, mais il y a des gens, par exemple, non, ils ne sont pas contents, qui disent que Boko Haram n'est pas un groupe de terroristes, mais vraiment, Boko Haram est un groupe de terroristes, parce qu'ils ont tout terrorisé le pays, donc le gouvernement du Nigeria est content, parce que le gouvernement du Nigeria, Boko Haram menace le gouvernement dans ses activités. Donc, le gouvernement du Nigeria est obligé d'être content si le gouvernement américain déclare que Boko Haram est un groupe terroriste. Mais moi, d'autres personnes du Nord ne sont pas contents du tout. Ils disent que Boko Haram, c'est la politique.
Benjamin Ogé, le porte-parole du PDP, le parti au pouvoir au Nigeria, Abdoulaye Diallo, a appelé la communauté internationale à aider le Nigeria à défaire le terrorisme. De quelle aide peut-il s'agir?
Oui, mais vous regardez, c'est très simple. Si vous voyez déjà le porte-parole d'un parti au pouvoir fait des appels...
Occidentaux qui ont déjà des coopérations avec le Nigeria, ils vous diront que la coopération avec les militaires nigérians sont extrêmement compliquées et qu'on est très souvent sur des questions de souveraineté. Ils ont beaucoup de mal à coopérer. Ils considèrent que c'est assez compliqué de laisser les étrangers, les occidentaux, les aider pour régler cette menace-là. C'est vraiment un pays à part dans la coopération militaire, et ce qui se passe dans la coopération militaire se passe aussi dans les autres coopérations. C'est assez compliqué de mettre en place des procès et des processus qui vont à leur terme, du fait de la complexité du pays et du fait d'une souveraineté à fleur de peau.
Alexis Avir.
Oui, je suis tout à fait d'accord et j'ajouterais que du point de vue des États-Unis, ici à Washington, la coopération antiterroriste avec le Nigeria existe, mais elle est compliquée justement d'un côté à cause des inquiétudes de la part de Washington sur les abus de droits humains de la part des forces nigérianes. D'un autre côté, comme a été dit, parce que les autorités nigérianes ont tendance parfois à rejeter une aide externe, considérant que vraiment il s'agit d'une question interne au Nigeria.
Et qui doit être réglée par les Nigériens eux-mêmes.
Et qui doit être réglée. Et surtout, les types d'aide que voudraient les autorités nigérianes, par exemple un équipement plus moderne, ne sont pas forcément les types d'aide que voudraient fournir les États-Unis et d'autres partenaires occidentaux. Qui serait plus focalisé sur un entraînement, comment coopérer avec les populations locales, comment avoir des informations plus fiables. C'est plutôt une coopération soft, alors que les forces nigérianes voudraient
du matériel beaucoup plus sophistiqué. Voilà,
exactement.
C'est tout pour Washington Forum. Merci à nos invités, Alexis Arieff, ici en studio, Adamu Guarzo à Kano et Benjamin Ogé à Paris. Petit clin d'œil à nos stations partenaires. Merci à tous nos confrères de nos stations partenaires. Et merci à nos auditeurs et téléspectateurs. Timothée Donangmaï, vous retrouverez la semaine prochaine Jacques Aristide dans Washington Forum sur la voie de l'Amérique.